Donc déjà, bonjour à chacun. Et merci Philippe, vraiment pour ta prière. Ce matin, nous allons voir que l'histoire, même si elle nous semble entre les mains des grands de ce monde, même si elle nous semble être dans les mains de ceux qui ont l'argent, le pouvoir, la puissance militaire, les moyens de communication, la Bible et le texte biblique que nous allons voir ce matin nous montrent que c'est bien Dieu qui a l'histoire entre ses mains. L'histoire est entre les mains d'un Dieu juste et c'est ce qu'on va voir. On va lire ensemble tout le livre d'Abdias. Donc c'est un livre qui se trouve dans la première partie de la Bible entre Amos et Jonas. Entre donc, le livre d'Amos et Jonas, et pour ceux qui le cherchent dans cette Bible-là, c'est à la page 593. On va réussir. Hop. Moi, j'y suis. J'espère que vous y êtes. On va donc lire tout ce livre. Mais il n'a qu'un seul chapitre, ce n'est que quelques lignes. Vision d'Abdias, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, dressons-nous contre Édom pour lui faire la guerre. Je t'ai rendu petit parmi les nations, tu es l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui es installé dans le creux des rochers, toi qui habites sur les hauteurs et qui te dis « Qui me fera tomber jusqu'à terre ?» Même si tu places ton nid aussi haut que celui de l'aigle, même si tu le places parmi les étoiles, je t'en ferai tomber, déclare l'Éternel. Si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté, ne voleront-ils pas tout ce qu'ils peuvent? Si des vendangeurs viennent chez toi, laisseront-ils de quoi grappiller? Ah, comme Ésaü est fouillé, comme ses trésors cachés sont découverts. Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière, tes amis t'ont trompé, ils l'ont emporté sur toi. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont tendu un piège et tu n'as pas su t'en apercevoir. Ce jour-là, déclare l'Éternel, je ferai disparaître d'Édom les sages et de la montagne d'Ésaü l'intelligence. Tes guerriers, tes mânes seront dans une telle épouvante que tous les habitants de la montagne d'Ésaü mourront dans le carnage. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des inconnus emmenaient ses richesses, où des étrangers entraient dans la ville et se partageaient au sort Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Ne regarde pas avec plaisir le jour de ton frère, le jour de son malheur. Ne te réjouis pas aux dépens des Judéens, le jour de leur ruine, et n'ouvre pas une grande bouche le jour de la détresse. N'entre pas dans la ville de mon peuple le jour de sa ruine. Ne regarde pas son malheur avec plaisir le jour de sa ruine et ne porte pas la main sur ses richesses le jour de sa ruine. Ne te poste pas au carrefour pour exterminer ses fouillards et ne livre pas ses rescapés le jour de la détresse. En effet, le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. On te fera comme tu as fait. Tes actes retomberont sur ta tête. Tout comme vous avez bu sur ma montagne sainte, toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront jusqu'à l'ivresse et elles seront comme si elles n'avaient jamais existé. Cependant, il y aura des rescapés sur le mont Sion. Il sera saint et la famille de Jacob reprendra ses possessions. La famille de Jacob sera un feu et la famille de Joseph une flamme. Mais la famille d'Ésaü de la paille sera de la paille qu'elles allumeront et brûleront. Et il ne restera rien de la famille d'Ésaü car l'Éternel a parlé. Les habitants du Négev posséderont la montagne d'Ésaü et ceux de la plaine, le pays des Philistins. Ils posséderont le territoire d'Éphraïm et celui de Samarie, et Benjamin possédera Galad. Les exilés, cette armée d'Israël, posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta, et les exilés de Jérusalem qui sont à Sépharad posséderont les villes du Négev. Des libérateurs monteront sur le mont Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartiendra le règne. Jusqu'ici, ce que dit la Bible. Le livre, ce livre si petit de la première partie de la Bible, c'est le livre le plus petit de la première partie de la Bible. il a de si grandes vérités pour nous. Nous allons être consolés ce matin en voyant que l'histoire est entre les mains d'un Dieu juste, parce qu'il jugera les ennemis de son peuple, parce qu'il restaurera son peuple et parce qu'il bénira le monde par son peuple. Il est possible de douter que l'histoire est entre les mains d'un Dieu juste quand on voit tellement d'injustices. Dans l'histoire, le peuple de Dieu a connu des moments injustes, des moments de défaite, des périodes malheureuses et s'est posé probablement plein de questions. Dieu, est-ce que tu es bien aux commandes ? Dieu, est-ce que tu as oublié ton peuple ? Est-ce que ceux qui sont contre ton peuple et contre toi vont triompher ? Est-ce que tu as oublié ta promesse, celle de faire de ton peuple un peuple nombreux ? Dès le début de la Bible, on voit que l'homme se détourne de son Créateur, mais Dieu par amour s'approche de l'homme et lui fait des promesses, notamment celle qu'il a faite à Abraham. Et cette promesse qu'il a faite à Abraham est rappelée tout au long de la Bible. Et voilà que cette promesse, voilà ce qu'elle dit, on peut la lire dans le livre de Genèse au chapitre 12. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Cette promesse faite à Abraham, Dieu ne l'a jamais oubliée. Et Dieu ne l'oubliera jamais. Mais le peuple de Dieu, parfois, dans des moments difficiles, l'a oublié. Dans des moments difficiles, cette promesse, il a commencé peut-être à douter. Mais nous verrons que Dieu n'abandonne jamais son peuple. Dieu n'oublie jamais, jamais son peuple. Le livre d'Abdias console le peuple de Dieu en montrant que l'histoire est entre ses mains. Dès le début du livre, on comprend qu'il y a un jugement de la part de Dieu contre un peuple de l'Antiquité, Édom. Édom était une nation voisine d'Israël à côté de la mer Morte, comme vous pouvez voir ici. Pour bien comprendre ce livre, il faut savoir que les Édomites sont les descendants d'Ésaü, le frère de Jacob, qui lui a donné naissance à la nation d'Israël. Et c'est pour ça qu'au verset 10, on peut lire « À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. » Ésaü et Jacob font tous les deux partie de la famille de la promesse. La famille d'Abraham. Abraham avec Sarah a eu un fils, Isaac. Isaac avec Rebecca ont eu deux jumeaux, Ésaü et Jacob. Et leurs descendants forment deux nations, le peuple d'Édom et le peuple d'Israël. Le livre de la Genèse nous raconte l'histoire de ces deux frères. Et ce qu'on peut dire, c'est que ces frères, ils avaient une relation vraiment très compliquée. Et ça, notamment grâce à leurs parents, qui les ont élevés, non pas comme des frères, mais comme des rivaux. Non pas comme des frères, mais comme des rivaux. Parce que, comme nous dit la Bible, en Genèse 25, verset 28, « Isaac aimait Ésaü parce qu'il amenait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. » Tout cela a eu des conséquences très graves. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'à leur naissance, Dieu a dit à Rebecca, en Genèse 25, verset 23, « Ils sont deux peuples dans ton ventre. Deux peuples différents naîtront de toi. L'un d'eux sera plus puissant que l'autre, et l'aîné sera assujetti au cadet. » C'est surprenant de voir Dieu dire ça à la naissance, que l'aîné allait être assujetti au cadet, et que l'aîné allait servir le cadet. Mais cela est bien arrivé, parce que la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, au chapitre 12, verset 16, qu'Ésaü, pour un seul repas, a vendu son droit d'aînesse. Isaac, avec sa préférence pour l'aîné, a a voulu changer le plan de Dieu. Quand il était vieux, alors qu'il commençait à avoir mal, qu'il perdait de la vision, il voulait donner une bénédiction particulière à l'aîné, à Ésaü. Et Rebecca a pensé que Dieu avait besoin d'un petit peu d'aide pour réaliser ses plans. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait passer son fils Jacob pour Ésaü, pour qu'Isaac, qui voyait mal, qui perdait vraiment de la vision, puisse donner la bénédiction à Jacob plutôt qu'Ésaü. Ce que je veux vous dire avec tout ça, je vous raconte cette histoire très rapidement, c'est pour vous dire que même si on veut aller à l'encontre du plan de Dieu, c'est bien le plan de Dieu qui arrive. Même si on veut aller à l'encontre du plan de Dieu, c'est le plan de Dieu qui va se réaliser. Et c'est important de comprendre toute cette histoire en arrière-plan pour mieux comprendre le livre d'Abdias. Dieu utilise même nos désobéissances pour accomplir son plan. Quand on regarde le livre d'Abdias de plus près, on voit qu'il y a bien plus qu'un problème entre deux nations. Pour Dieu, c'est bien plus grave que ça. Édom et Israël sont nés dans la même famille. Édom et Israël sont nés du même ventre. Ces deux nations qui devaient s'aimer se sont détestées. Relisons les versets 10 et 11. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des inconnus emmenaient ses richesses, où des étrangers entraient dans sa ville et se partageaient au sort Jérusalem, toi aussi, tu étais comme l'un d'eux. Les spécialistes ne sont pas d'accord sur la date de ces événements. Ces versets font référence soit à une participation édomite au saccage de Jérusalem sous Joram vers 845 avant Jésus-Christ, soit lors de la prise de Jérusalem par les Babyloniens en 587 avant Jésus-Christ. Quelle que soit la date, ce qu'il faut retenir, c'est qu'Édom s'est allié avec des ennemis du peuple de Dieu pour l'attaquer. Et qu'en faisant ça, Édom faisait beaucoup plus qu'un acte de politique internationale et d'opportunisme, mais qu'il commettait un crime contre son frère. Il allait à l'encontre du plan de Dieu qui a été défini des siècles auparavant. Et comme le plan de Dieu se réalise toujours, Dieu annonce dans Abdias la ruine d'Édom. Dieu annonce dans Abdias la destruction d'Édom. Ce qui a poussé Édom à réaliser tout cela, c'est son orgueil. Relisons le verset 3. « L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui es installé dans le creux des rochers, toi qui habites sur les hauteurs et qui te dis, qui me fera tomber jusqu'à terre ?» Édom était rempli d'orgueil à cause de la situation géographique de son pays. Son pays était dans une région rocheuse et difficile d'accès. Je vous montre ici des tombes édomites à l'entrée de Petra. Édom pensait que rien ne pouvait lui arriver. Et dans son cœur, il avait des pensées orgueilleuses. Qui me fera tomber jusqu'à terre ? Édom était bien placé géographiquement. Édom était bien placé commercialement. C'était placé sur les routes commerciales de l'époque. Et c'est pour ça qu'ils avaient énormément d'argent, qu'ils avaient des trésors cachés, comme on peut lire au verset 6. « Ah, comme Ésaü est fouillé, comme ses trésors cachés sont découverts. » L'orgueil d'Édom lui donnait une mauvaise vision de lui-même, une mauvaise vision des autres et une mauvaise vision de Dieu. Édom était complètement aveuglé sur qui il était vraiment, sur qui étaient vraiment ses alliés et sur qui était vraiment Dieu. Édom pensait être grand, mais Dieu dit qu'il est tout petit, au verset 2. Édom pensait être intelligent, Édom pensait être puissant, mais ni les sages, ni ses sages, ni ses guerriers ne pourront rien faire contre le jour de malheur qui va lui arriver, comme on peut le voir au verset 8 et 9. Édom avait une grande confiance dans ses alliés, mais ses alliés sont devenus ses ennemis. Relisons le verset 7. Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière, tes amis t'ont trompé et ils l'ont emporté sur toi. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont tendu un piège et tu n'as pas su t'en apercevoir. Encore une fois, on voit comment Dieu peut utiliser des cœurs mauvais, comment Dieu peut utiliser nos histoires pour réaliser la sienne. Jamais Édom n'aurait imaginé que ses alliés allaient le trahir. Et pourtant, c'est bien par là que la ruine est arrivée. Nous ne devons pas soupçonner le mal de partout. Mais comme dit la Bible dans le psaume 118, « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans les grands. » On peut lire au verset, dans le livre aussi de Jérémie, au chapitre 17, verset 5. « Voici ce que dit l'Éternel, maudit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » L'orgueil d'Édom l'aveuglait également sur qui était Dieu. Le Dieu de la Bible est un Dieu juste qui ne laissera pas impunis les injustices. Au verset 15, on lit « On te fera comme tu as fait, tes actes retomberont sur ta tête. » Après avoir volé, Édom sera volé. Après avoir occupé le territoire du peuple de Dieu, son territoire sera occupé. Après avoir commis des horreurs, comme exterminer et livrer des rescapés aux alliés, Édom sera détruit. Comme on peut le voir au verset 18. Je lis une partie du verset 18. Il ne restera rien de la famille d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Le jugement d'Édom n'est qu'une préfiguration, n'est qu'un prototype de ce qui arrivera un jour. Il y a des moments particuliers dans l'histoire où Dieu dit stop à une nation, stop à un homme ou une femme. Mais il y a un jour où il y aura un stop final à l'injustice. Au verset 15, on lit « Le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. » Ce qui est arrivé à Édom arrivera à toutes les nations, à tout peuple qui s'élève contre ceux qui sont le peuple de Dieu. Qui est le peuple de Dieu dans ce texte et qui est le peuple de Dieu aujourd'hui? Le peuple de Dieu ici dans ce texte sont les descendants spirituels d'Abraham. Et le peuple de Dieu aujourd'hui sont les descendants spirituels d'Abraham. La Bible montre clairement qu'Abraham est le père de la foi, un exemple de foi à suivre. Et ceux qui sont véritablement peuple de Dieu, ce sont ceux qui ont la foi, ce sont ceux qui ont la confiance dans les promesses de Dieu, comme Abraham a fait confiance aux promesses de Dieu. On peut voir ça dans la Bible, par exemple dans Romains au chapitre 4, qui nous montre qu'il ne suffit pas d'être né parmi le peuple de Dieu et faire des choses comme fait le peuple de Dieu pour faire partie véritablement du peuple de Dieu. Aujourd'hui, pour faire partie du peuple de Dieu, de l'Église de Dieu, de la communauté de Dieu, il ne suffit pas d'être né dans une famille chrétienne. Il ne suffit pas de venir juste aux rencontres de l'Église. Dieu demande la foi. Ceux qui sont son peuple sont ceux qui lui font une totale confiance, comme Abraham a fait une totale confiance. Parfois, il nous faut du temps pour mettre notre confiance totale en Dieu. Et c'est pour ça que tout le monde est le bienvenu dans les rencontres de l'Église, pour qu'on puisse vraiment mieux découvrir toujours plus ce Dieu, pour qu'on puisse vraiment mettre toute notre confiance en lui pour notre plus grand bonheur, comme on va le voir encore par la suite. Aujourd'hui, l'Église est persécutée, méprisée, bien puissante face aux grands de ce monde. Et pour qu'on soit rempli de confiance, il est important pour nous de savoir que le jour de l'Éternel historique a bien eu lieu. Édom n'existe plus sur la carte. Mais le jour de l'Éternel est aussi un jour dans le futur où Dieu va juger toutes les nations qui ne fléchissent pas le genou devant lui, qui se sont opposées à son plan. Comme on peut le voir au verset 16, Dieu leur fera boire une coupe de colère, une coupe de vin qui assomme et qui détruit. C'est une image pour parler du jugement de Dieu. C'est un jugement pendant toute l'éternité. C'est écrit au verset 16 que les nations boiront sans cesse de cette coupe-là. Après avoir jugé ses ennemis, Dieu restaurera son peuple. Et regardez comment à partir du verset 17. « Cependant, il y aura des rescapés sur le mont Sion. Il sera saint et la famille de Jacob reprendra ses possessions. La famille de Jacob sera un feu et la famille de Joseph une flamme. Mais la famille d'Ésaü sera de la paille qu'elles allumeront et brûleront. Et il ne restera rien de la famille d'Ésaü car l'Éternel a parlé. » Il y aura des rescapés du jour de l'Éternel et ces rescapés sont le peuple de Dieu. Dans le livre d'Abdias, on voit que non seulement le peuple de Dieu a à nouveau un territoire, son territoire, qu'il a des biens, mais qu'il jugera aussi ses ennemis. Regardez ce que la Bible dit. Jacob sera du feu, la famille de Joseph, et Joseph est un des fils de Jacob, donc c'est la descendance de Jacob. Et bien Joseph il sera une flamme. Mais par contre, regardez Ésaü. Ésaü sera de la paille et il sera allumé et brûlé par, et il sera brûlé par le feu et la flamme. Donc tout ça veut nous dire que les ennemis du peuple de Dieu seront jugés par le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons encore un petit peu mieux comprendre ça. Nous pouvons un petit peu mieux comprendre ce qui se passera un jour parce que c'est écrit dans la lettre de 1 Corinthiens, au chapitre 6, versets 2 et 3, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?» On ne comprend bien évidemment pas tout. Enfin, si quelqu'un comprend, moi je veux bien qu'on en parle tout à l'heure. Mais non seulement le peuple de Dieu est restauré, mais il jugera ses ennemis. Le plan ultime de Dieu se réalisera. Dieu jugera les ennemis de son peuple. Dieu restaurera son peuple et Dieu bénira le monde par son peuple. On voit des versets 19 à 21 que le territoire du peuple de Dieu s'élargit, qu'il domine sur le mont Sion, c'est-à-dire depuis Jérusalem, parce que Dieu est en train d'établir son royaume. Rappelez-vous ce qui est écrit à la fin, et à l'Éternel appartiendra le règne. Ce petit livre nous rappelle de grandes promesses faites par Dieu. Dieu aime son peuple. Dieu est fidèle envers son peuple. Dieu réalisera les promesses envers son peuple. J'aime beaucoup ce qu'on peut lire dans Deutéronome chapitre 7, versets 7 et 8. « Ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples, mais c'est parce que l'Éternel vous aime. » Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos ancêtres, qu'il vous a fait sortir par sa main puissante et vous a délivré de la maison de l'esclavage, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Dieu aime son peuple parce qu'il aime son peuple. Il n'y a aucune explication à l'amour de Dieu, aucune. Parfois, il utilise des circonstances, des peuples avec un cœur orgueilleux, comme Édom, comme l'Égypte, pour le discipliner comme un père aimant, comme un père plein d'amour. Parfois Dieu apprend par des moments difficiles des choses précieuses à son peuple. Mais l'injustice commise envers son peuple par d'autres peuples sera punie pendant l'histoire ou à la fin de l'histoire. Il y aura un jugement final. Ce livre nous console et nous remplit d'espérance en nous montrant que l'histoire est bien entre les mains d'un Dieu juste. Et on voit au travers de ce livre qu'il y a un jugement à éviter et une discipline à éviter de la part de Dieu. Nous pouvons lire dans la Bible, en Proverbe 7, en Proverbe 16, verset 18, « L'arrogance précède la ruine ». Et l'orgueil précède la chute. Nous pouvons aussi lire en Jacques chapitre 4, verset 6. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Pendant l'étude de ce texte, Pendant la préparation de cette prédication, j'ai dû demander pardon à Dieu. J'ai vu de l'orgueil dans mon cœur. J'avais envie de tout abandonner, prendre un autre texte. Je me disais, mais qui je suis pour prêcher un tel message ? J'ai vu l'orgueil des hommes dans mon cœur. Et je sais que Dieu n'aime pas ça. Je prêche d'abord ce message à mon cœur, pour que Dieu développe de l'humilité et une grande espérance en moi. John Stott, qui a été pasteur et théologien, a écrit « À chaque étape de notre croissance chrétienne et dans chaque domaine de notre vie de disciple, l'orgueil est notre plus grand ennemi et l'humilité notre plus grand ami. » C.S. Lewis, un auteur chrétien qui a écrit dans son livre « Les fondements du christianisme » dans un chapitre qu'il a intitulé « Le grand péché ». Si quelqu'un désire acquérir l'humilité, je crois être en mesure de lui indiquer le premier pas, c'est de prendre conscience qu'il est fier. Faire ce premier pas n'est pas peu de chose, car rien ne saurait s'accomplir sans lui. Car penser n'être pas vaniteux, c'est l'être vraiment. Ce livre nous invite à une grande humilité. Nous sommes absolument rien devant Dieu. Et nous devons vraiment chercher à mieux le connaître et comprendre ce qu'il veut faire avec nous et avec son peuple. En qui, au quoi mettons-nous notre confiance absolue ? En nous-mêmes, nos biens, nos compétences intellectuelles, dans des alliés très forts, nos amis, notre famille, notre Église, ou en Dieu d'abord ? Ô en Dieu avant tout. Aujourd'hui, grâce à la deuxième partie de la Bible et la période de l'histoire dans laquelle et la période de l'histoire que nous vivons, nous savons que c'est bien en Israël que Jésus est né. Et nous savons notamment avec le livre d'Actes au chapitre 1 verset 8 que son message s'est propagé de Jérusalem vers la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre aujourd'hui. Il est en train de se propager jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est parfois injurié, persécuté, abattu, triste comme au temps d'Abdias. Mais il n'est pas abandonné par son Dieu. Nous savons que l'Église règnera sur la terre. Et on peut le lire en Apocalypse, chapitre 5, verset 10. « Tu, et ça parle de Jésus, a fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu. » Et ils régneront sur la terre. Jésus est venu à la croix, il a bu cette fameuse coupe de colère que les nations méritent toutes de recevoir. Il a bu cette coupe pour que moi et vous, on puisse être pardonnés et qu'on puisse avoir dans le futur ce qu'on ne mérite absolument pas. Tous ceux qui reconnaissent aujourd'hui leur orgueil, leur envie d'indépendance, vis-à-vis de Dieu, leur auto-glorification devant Dieu, qui demandent pardon aujourd'hui à Jésus, sont pardonnés aujourd'hui et un jour, ils régneront avec Jésus-Christ. Dieu est un Dieu juste et soit nous lui demandons pardon aujourd'hui et nous sommes pardonnés et nous régnerons avec lui, soit nous ferons partie de ceux qui vont dire aux montagnes et aux rochers, comme on peut lire dans le livre d'Apocalypse au chapitre 6, versets 16 et 17. Tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. En effet, le grand jour de sa colère est venu et qui peut résister ? L'agneau ici représente Jésus. Jésus qui est venu mourir en sacrifice pour que tous on puisse avoir accès à ce pardon. Regardons un peu en arrière. Édom est détruit. L'Égypte, c'est un bon sujet pour les archéologues. C'est un bon sujet d'étude pour les archéologues. Babylone n'existe plus. L'Empire romain, c'est du passé. Je suis très nul en histoire et très nul en géographie, mais le peu que je sais me rassure. Les grandes puissances du monde laisseront pleinement leur place au royaume de Jésus-Christ. Dieu règne depuis toute l'éternité, et j'ai essayé de vous le montrer rapidement avec ce livre d'Abdias. Mais sachez qu'un jour, Jésus règnera pleinement de manière visible. Et que son peuple dépasse largement les frontières d'Israël. Son peuple, un jour, sera constitué d'hommes et de femmes de tous les peuples. Pensez à toutes les nations du monde actuel. Toutes les nations du monde actuel, tous les grands de ce monde laisseront leur place au royaume de Jésus-Christ. L'Église fera partie de ce royaume parce que l'Église véritable est constituée de tous ceux qui ont reconnu Jésus comme leur roi. Et l'Église véritable annonce partout dans le monde que Jésus est roi. Dieu règne sur l'histoire. Il nous a révélé son plan, sa volonté. Est-ce que tu veux faire partie de ce royaume? Est-ce que, Église, tu es la bénédiction pour le monde aujourd'hui? Soyons tous consolés par cette grande espérance. Dieu va réaliser son plan avec nous ou sans nous, mais j'espère qu'on veut tous en faire partie. As-tu accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, celui qui veut te pardonner? As-tu accepté Jésus-Christ comme ton roi qui veut vraiment régner sur tous les domaines de ta vie? Pour qu'il règne, on doit enlever nos couronnes. Église, peuple de Dieu, même si tu es persécuté, découragé, même si parfois tu es discipliné par ton Dieu par amour, pour t'apprendre des choses, sache qu'à la fin de l'histoire, tu auras une grande victoire. Annonce cette victoire dans le monde entier, pour qu'un grand nombre accepte Jésus comme leur roi. Ta victoire a été acquise à la croix. Jésus est ressuscité puissamment, comme on l'a vu. Ton roi, Église, règne déjà aujourd'hui et il règnera pleinement un jour. Aujourd'hui, Jésus règne dans le cœur de l'Église, mais un jour, il règnera sur le monde. Et Église, tu auras la bénédiction de régner avec ton roi. J'espère que tout cela nous émerveille. J'espère que tout cela nous console. J'espère que tout cela nous rassure. Dieu est aux commandes de l'histoire. L'histoire est entre les mains d'un grand Dieu. Je vous invite vraiment à courber vos têtes, à nous mettre devant ce grand Dieu et qu'on puisse prier. Père, ça nous dépasse, mais on voit bien que tu es aux commandes de l'histoire. L'histoire passée nous rassure sur ce qui va arriver. Nous voulons vraiment te demander d'enlever l'orgueil de nos cœurs. Aide-nous tous ici présents à mettre notre confiance totale en toi. Père, parle-nous à chacun de nous. S'il te plaît, que ce que tu dis dans ta parole puisse devenir concret dans nos cœurs. Pardonne-nous. Et règne dans nos vies et dans le monde. Nous attendons ton règne de manière plus visible. Et Seigneur, je te prie qu'aucun de nous ici ne soit pas écarté de ce royaume. Aide-nous à accepter Jésus roi et à vouloir faire partie de cette histoire qui est la tienne. Dans le nom de Jésus. Amen.